Vous écoutez, on lit pour vous.
Rencontre avec Normand Boucher. Un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad. Normand Boucher est chercheur au CIRIS et professeur associé à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Il est sociologue et politologue de formation. Ses intérêts touchent les transformations des pratiques et des politiques entourant le phénomène du handicap et la citoyenneté au sein d'une approche participative. Ses sujets d'étude touchent les politiques sociales, le handicap et l'exercice des droits dans des secteurs comme le travail, l'habitation, le transport et les services aux personnes. Monsieur Boucher, comment votre rôle de politologue influence-t-il les projets de recherche multidisciplinaires relatifs aux personnes ayant des incapacités auxquelles vous participez? J'ai un regard sociologique et macro plutôt que clinique, ce qui m'amène à soulever des problématiques reliées à la mise en place de politiques et à analyser leurs impacts sur l'ensemble d'une population. De ce fait, les volets des acteurs publics et le volet des acteurs sociaux sont très importants à prendre en considération lors de l'élaboration d'un projet de recherche à caractère social. Malheureusement, il y a très peu d'écrits historiques qui recensent leur évolution au Québec, contrairement au modèle anglophone qui est très documenté. Ma thèse de doctorat s'est construite autour du développement des interventions gouvernementales à l'égard du handicap, notamment sur le modèle québécois d'intégration sociale. Contrairement à d'autres provinces, nous avons défini le handicap comme étant un phénomène collectif. Nous avons ainsi une responsabilité collective par rapport à certaines dimensions. Par exemple, la majorité des aides techniques sont entièrement couvertes par l'État au Québec, ce qui n'est pas le cas en Ontario ou en Colombie-Britannique. Ce sont le type d'angle que j'aborde en tant que politologue et j'insiste également sur le rôle des acteurs impliqués lorsque nous nous intéressons aux mouvements sociaux. Nous aimerions savoir si l'évolution de la place des personnes en situation de handicap dans l'espace public va nécessairement de pair avec l'invisibilité que ce groupe a aux yeux des partis politiques et pourquoi. Peu de partis politiques au Québec ont intégré des éléments relativement au handicap dans leur programme et ce, même dans les dernières années. Nous pouvons toutefois remarquer une influence du gouvernement fédéral, notamment dans les groupes cibles. Il y a le courant de pensée en faveur de la diversité dans le reste du Canada et au Québec qui a permis une certaine sensibilité aux luttes menées par les personnes handicapées. Il n'y a pas de lien direct entre les revendications sociales et les partis politiques au Québec, comparativement au reste du Canada. Notamment, Jonathan Marchand, personne handicapée et activiste, a sollicité le gouvernement par des sorties médiatiques afin d'aborder le soutien à domicile avec le gouvernement en place. Plusieurs groupes communautaires à Longueuil ont également sollicité les partis politiques pour les questions du logement et du transport adapté qui sont problématiques. Nous n'avons cependant pas observé de changement majeur pour l'ensemble de cette population à la suite de ces revendications importantes menées de front. Nous pouvons remarquer, sans toutefois l'expliquer, l'impossibilité pour le mouvement des personnes handicapées d'être politique, comparativement à d'autres mouvements sociaux. Nous pouvons penser notamment aux mouvements féministes ou aux mouvements LGBTQ qui, bien que ce ne soit pas parfait, ont mené à des changements. La visibilité des personnes en situation de handicap est encore aujourd'hui quasi nulle et difficile à gagner et ce n'est pas uniquement en raison du nombre. Est-ce qu'il y a des projets de recherche que vous avez menés dans les dernières années relativement aux politiques sociales en place au Québec pour les personnes en situation de handicap et quels sont-ils? Avez-vous été en mesure d'émettre des recommandations ou des pistes de réflexion lors de l'obtention des résultats de ceux-ci? J'ai travaillé sur la question de l'emploi chez les personnes en situation de handicap sous différents angles à travers plusieurs projets de recherche. J'ai, entre autres, mené un projet de recherche en partenariat avec le Comité consultatif des personnes handicapées, CCPH, s'intéressant aux personnes en situation de handicap entre 15 et 64 ans qui ne sont ni en emploi ni à l'école. Statistique Canada avait recensé que 24 % des personnes en situation de handicap correspondaient à ce profil, mais nous n'avions aucune donnée sur ceux-ci. Nous nous sommes intéressés à leur expertise, leur emploi du temps et leurs activités quotidiennes. Il est ressorti de ce projet qu'il y a présence d'une grande diversité dans le champ du handicap et qu'il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Les personnes ayant besoin d'un plus grand accompagnement et de soutien éprouvent davantage de difficultés au niveau de l'intégration en emploi en raison de leur dépendance au système de santé. Nous pouvons remarquer qu'une seule structure politique peut influencer plusieurs sphères de la vie d'une même personne ayant des incapacités. À travers mes recherches portant sur les logements et les milieux de vie pour les personnes en situation de handicap, j'ai pu constater que la diversité de modèles est importante. Cette population n'a pas tous les mêmes besoins et il faut être à l'écoute de celle-ci. Toutefois, ce qui revient régulièrement dans les entrevues de recherche est la nécessité de se sentir chez soi et de ne pas avoir de contraintes similaires au milieu hospitalier. Faire preuve de souplesse en termes de règlements et de normes pour les milieux de vie est nécessaire, car il n'est pas possible de transposer ceux en place dans les CHSLD à des modèles alternatifs basés sur la liberté de choix. Quelles seraient vos recommandations pour le parti élu au niveau provincial le 3 octobre dernier en termes de services offerts et de politiques sociales favorables aux personnes en situation de handicap? Je dirais que le maintien des interventions pour améliorer l'accessibilité universelle de manière globale pour l'ensemble de la province est ce qui compte davantage. Une multitude d'autres mesures peuvent être instaurées, comme par exemple le revenu de base qui sera mis en place dès janvier 2023 pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi, ce qui est tout à fait essentiel. Toutefois, cette mesure n'agit que pour un groupe bien spécifique, dont seulement une partie de la population ayant des incapacités répondent à ces critères. On aurait avantage, comme société, à élargir ce type de mesures afin de réduire les inégalités sociales. Le soutien aux revenus ne peut se faire sans continuer de travailler sur des mesures qui vont transformer l'environnement physique et social pour l'ensemble de la société. Il y a des politiques macro et des interventions plus ciblées en fonction des besoins. Je dirais également qu'écouter les personnes concernées et leur accorder une plus grande place au cœur des processus décisionnels. Ces éléments qui peuvent paraître évidents, mais qui sont parfois difficiles à appliquer, et ce, même si la majorité des États se targuent d'avoir ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Plusieurs problématiques présentes depuis des années, voire même des décennies, n'ayant jamais été réglées, réémergent plus tard. Par exemple, le télétravail constituait un sujet de recherche exploré dans les années 90, et depuis la pandémie, c'est revenu en force. Même que c'est désormais la norme de l'offrir à l'ensemble des travailleurs encore plus pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations fonctionnelles. Les modalités et les responsabilités de chacun en termes de télétravail sont discutées encore à ce jour. Ce qui peut donner l'impression que c'est un sujet nouveau, bien que ce ne l'est pas. En somme, il y a des enjeux antérieurs et d'autres émergents qui ont des impacts quant à l'exercice des droits auxquels le parti au pouvoir au Québec pourrait s'attaquer. C'était Rencontre avec Normand Boucher, un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad. Personnes en situation de handicap et campagne électorale. Peu de poids, peu de mesures. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortier et Ariane Gauthier-Tremblay paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad. Encore en cette campagne électorale, nous avons constaté combien les droits et les besoins des personnes en situation de handicap ont été absents des débats. Pourtant, il s'en serait fallu de peu pour que les multiples mesures annoncées en faveur de différentes clientèles puissent aussi leur bénéficier. Des promesses pour qui? Bien sûr, on peut se réjouir de la présence de Mme Marilyn Picard, mère d'une enfant handicapée dont la lutte a valu la promesse électorale de la création de 500 places de répit afin d'aider les familles vivant avec un enfant handicapé. Cependant, sa situation, bien que touchante, a occulté une population importante de personnes en situation de handicap adulte, ainsi que les enjeux structurants de soins à domicile et d'accès aux services de santé. D'ailleurs, les bonifications des soins à domicile promis par les différents partis politiques s'adressaient-elles aussi aux personnes en situation de handicap? La lutte de Mme Picard a-t-elle fait état d'un portrait plus répandu des proches aidants qui, au prix de leur santé physique, mentale et économique, se voient imposer la gestion et la réalisation de soins de santé, de tâches quotidiennes et de procédures administratives? Un seul parti leur a accordé une promesse de support économique substantiel et à long terme. La promesse de nommer un ministre responsable du secrétariat aux personnes vivant avec un handicap ou le spectre de l'autisme et les deux promesses, tous partis confondus, qui visent à favoriser l'intégration à l'emploi de cette population, auront-elles permis de rappeler que les personnes en situation de handicap aspirent, elles aussi, à prendre part à la vie économique, politique et sociale? Nous faisons quand même et malheureusement le constat que les promesses adressées aux personnes en situation de handicap, ce sont les exceptions qui confirment la règle voulant que ces dernières n'aient pas un électorat visé par les partis. Et pourtant, elles représentent 15% de la population, soit une masse critique ignorée. Le réseau du transport adapté traverse une crise insoutenable au Québec. Alors que nous enregistrons des coupures répétées à Montréal, la perte du dernier taxi adapté à Rouyn-Noranda et la fin du transport adapté dans la région de Thetford Mines, tous les partis confondus sont arrivés à multiplier les promesses électorales dans le dossier du transport sans aborder concrètement le transport adapté. Même cas de figure dans le dossier du logement accessible. Les promesses en matière de logements sociaux ont abondé tout en contournant complètement le programme d'adaptation de domicile, dont le montant de base représente la somme ridicule de 16 000 $ qui n'a pas été indexée depuis les années 80. Aussi, les lacunes législatives en matière d'accessibilité universelle sont connues et font l'objet de dénonciations depuis plusieurs années. Il ne suffit que d'une promenade à l'extérieur pour constater le manque d'accessibilité architecturale dans les régions rurales comme urbaines. Pourtant, ce sujet a été évité par tous les partis, sauf pour un seul qui a promis d'adopter une loi sur l'accessibilité universelle. Autre dossier tabou de la campagne, les pénalités sur les rentes de retraite. Plus de voix, plus de mesures. Ainsi, bien que plusieurs promesses électorales lancées en 2022 serviront indirectement les personnes en situation de handicap, il est extrêmement curieux d'observer que leurs intérêts particuliers ont pratiquement été ignorés par le milieu politique. Force est de constater que les personnes en situation de handicap n'ont pas de puissants lobbies ou de syndicats défendant leurs intérêts. Il semble que nous devions travailler trois fois plus fort pour enregistrer de petites victoires ici et là. Pourtant, devant le poids numéraire que représentent les personnes avec des limitations fonctionnelles, soit 33% de l'électorat, on peut se demander pourquoi elles ne font pas le poids. Politiquement. Chez Mémo-QC, nous croyons que la solution est d'utiliser nos voix et de s'unir pour en favoriser la portée. À cet égard, Mémo-QC est un outil éloquent pour faire entendre les besoins et faire valoir les droits des personnes en situation de handicap. tout comme la voix de Mémo-QC et celle de ses membres, vos voix contribuent à donner force et ampleur à l'organisme. Nous visons la création et l'utilisation d'espaces pour prendre la parole et pour offrir des tribunes aux personnes en situation de handicap, notamment en coordonnant des comités à l'interne constitués par et pour les personnes en situation de handicap et en siégeant sur plusieurs tables de concertation, notamment en matière de transport et d'accessibilité. Chaque fois qu'une personne en situation de handicap prend la parole, c'est une communauté qui prend la mesure de la valeur ajoutée qu'elle peut apporter. C'est aussi une porte qui s'ouvre pour les autres personnes en situation de handicap. C'est ainsi que les politiques, les budgets, les mesures et les services de qualité se gagnent de façon à permettre à chacun et à chacune de prendre part à la société, un tour de roue à la fois. Se faire entendre, se rendre visible, c'est devenir des citoyens et des citoyennes incontournables. C'était « Personnes en situation de handicap et campagne électorale ». Peu de poids, peu de mesure. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortier et Ariane Gauthier-Tremblay paru dans le numéro 158, automne 2022, du magazine Paraquad.
Vivre en CHSLD quand on a moins de 65 ans, la hantise des adultes en situation de handicap. Un texte de Virginie Archambault, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Plusieurs enjeux touchant les personnes en situation de handicap n'avancent pas au rythme espéré, ce qui est parfois difficile à constater pour notre organisme, notamment parce que nous sommes témoins des répercussions sur nos membres. L'hébergement des personnes en situation de handicap de moins de 65 ans en centre d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, en fait partie. Il s'agit d'une préoccupation très répandue chez notre clientèle et pour laquelle nous avons démontré clairement notre position à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Avec cet article, nous souhaitons faire l'état de la situation en ce début d'année 2023 en replaçant les divers contextes politiques, en retraçant les dernières études sur le sujet, pour terminer avec les recommandations que nous en ressortons. Revenons en 2013, lorsque la Commission de la santé et des services sociaux du Québec, CSSQ, avait pour mandat d'initiative d'étudier les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD. Plusieurs groupes de professionnels ont voulu, à ce moment, exprimer leur vision sur la place des personnes en situation de handicap de moins de 65 ans dans ces institutions. Un document de la CSSQ rassemblant les points importants de ces mémoires et des visites effectuées sur le terrain a ensuite été publié en 2016 par la Direction des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec afin d'y émettre des observations, des conclusions et des recommandations, Commission de la santé et des services sociaux, 2016. En mai 2019, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, a fait l'annonce du démarrage des travaux menant à l'élaboration d'une politique d'hébergement et de soins de longue durée visant à mieux répondre aux besoins des différentes clientèles hébergées. Les orientations de cette politique s'adressent à tout type d'hébergement de soins de longue durée, ainsi qu'à toutes les clientèles susceptibles d'y vivre, dont les adultes de tous âges ayant une déficience physique. Quelques mois après l'annonce de cette politique, en novembre 2019, la ministre dévoile le concept des maisons des aînés et des maisons alternatives prévues pour accueillir de premiers résidents en 2022. Les maisons alternatives sont montrées comme étant des milieux de vie respectant les préférences de chacun, adaptant les services aux besoins de chacun, préservant leur intimité et bien plus. Mémo QC, février 2020. Déjà grandement préoccupée par cet enjeu depuis plusieurs années, Mémo QC rédige un mémoire sur le sujet dans l'objectif de le déposer et de le présenter en février 2020 dans le cadre de la consultation du ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, pour la politique mentionnée plus tôt. Pour alimenter notre rédaction, nous avons eu recours à de nombreux écrits datant du mandat d'initiative de 2013. Force était de constater que malgré les 7 années écoulées depuis ce rapport, la réalité dénoncée était toujours celle vécue par nos membres hébergés en CHSLD. Nous souhaitions également établir notre position sur le sujet en tant que défenseurs des personnes en situation de handicap. Les principaux problèmes évoqués dans le mémoire de 2020 étaient notamment la rigidité de l'horaire, la difficulté d'occuper un emploi ou d'être aux études, les frais d'hébergement excessifs, les délais d'attente du programme d'adaptation du véhicule, les rares sorties récréatives, le manque d'activité physique et l'absence de vacances. Un autre élément préoccupant pour les adultes hébergés est le manque de représentation de personnes ayant un profil similaire au leur et avec lesquelles ils peuvent avoir des affinités. Effectivement, la plupart des personnes hébergées sont âgées et ont des troubles cognitifs. En subissant l'ensemble ou plusieurs de ces contraintes, plusieurs peuvent aller jusqu'à ressentir de la détresse psychologique et un mal-être profond. Même au QC, février 2020. L'atteinte de la santé physique, mais également de la santé mentale, des adultes hébergés en CHSLD est la preuve que ces institutions ne sont pas adaptées à une clientèle jeune et active. À peine quelques semaines après la consultation du M3S en février 2020, une pandémie mondiale a frappé de plein fouet les CHSLD durant plus d'un an, atteignant des nombres de décès quotidiens saisissants. À ce moment, toutes les faiblesses existant au préalable dans le réseau de la santé ont été intensifiées et sont devenues d'une évidence indéniable. Les personnes hébergées ont vu leur sécurité, leur qualité de vie et l'exercice de leurs droits plus que jamais contraints. Grenier 2021. Les CHSLD étant propres au Québec, il est difficile de retrouver des études abordant spécifiquement la problématique de l'hébergement des personnes en situation de handicap dans notre province. C'est pourquoi l'article de recherche de Yann Grenier, U. Laval-Siris, se démarque par l'analyse de l'ensemble de la situation d'un point de vue sociologique. Publié à l'été 2021, nous y retrouvons notamment la documentation de l'expérience de Jonathan Marchand, activiste et personne en situation de handicap, ayant demeuré plus de 10 ans contre son gré en CHSLD avant d'obtenir sa libération. Il y fait état de ses conditions d'existence en institution et y explique les fondements de son action politique. Grenier 2021. Monsieur Marchand a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Aucune autre option que l'hébergement en CHSLD n'était possible il y a 10 ans. Et c'était toujours le cas jusqu'à ce qu'il mène une action politique d'occupation de la devanture de l'Assemblée nationale de Québec pendant laquelle il s'est encagé pendant plusieurs jours. Comme bien d'autres personnes de moins de 65 ans, son état de santé n'est pas une raison suffisante pour justifier son hébergement en CHSLD. Ce sont l'organisation et l'économie des soins et des mesures de soutien qui le fixent en institution. Grenier 2021. À la suite de son action, Jonathan Marchand a finalement eu l'autorisation temporaire de la part du gouvernement provincial d'avoir accès à des montants d'aide personnelle à domicile et embaucher ses préposés de façon autonome. Il est alors en mesure d'occuper un emploi, d'avoir une vie sociale et de s'épanouir comme toute personne active devrait pouvoir le faire. Bien que Jonathan Marchand ait gagné sa lutte pour l'autonomie et le libre choix, il se désole que ce ne soit toujours pas le cas pour les personnes ayant une situation similaire à la sienne. Un article de Patrick Fougeirola et d'autres collaborateurs a souligné que le processus de désinstitutionnalisation des personnes en perte d'autonomie n'a jamais été complété au Québec, et ce, autant pour les personnes âgées que les adultes de moins de 65 ans en situation de handicap. Pour limiter l'hébergement en institution, ça prend des soins à domicile basés sur des besoins réels. Cela constitue un enjeu majeur lorsque ceux-ci sont conçus en fonction des besoins d'une clientèle âgée ayant des incapacités dues au vieillissement et que nous l'appliquons à l'ensemble des personnes avec incapacité. C'est par ce processus que la gériatrisation des adultes en situation de handicap se produit au sein de notre système de santé. Fougeirola et autres, 2021. Un cercle vicieux se crée lorsque, par manque d'heures de soins à domicile ou par manque de personnel qualifié et disponible, des personnes en situation de handicap doivent être hébergées en CHSLD. C'est exactement ce qui se produit présentement au Québec, et notre clientèle vit avec la peur constante d'être institutionnalisée. Le gériatre, M. Régent Hébert, affirme même que l'on fabrique des résidents de CHSLD par l'insuffisance de soins à domicile. L'institutionnalisation est coûteuse pour la société, en plus de toutes les autres problématiques qu'elle engendre. La presse, 2022. En analysant les contextes politiques et l'évolution de la problématique au fil des années, nous pouvons conclure qu'encore, en 2023, le libre choix et l'autodétermination seront toujours la meilleure solution proposée et qu'elle n'est toujours pas appliquée. Les recherches étaient claires à l'époque et sont toujours unanimes sur l'urgence de mettre en place un système permettant de fournir davantage d'heures de service de soins à domicile aux personnes lourdement handicapées. Il faut également cesser de gériatriser les adultes en situation de handicap et rester à l'écoute de leurs réels besoins. Alors que 2023 a débuté en réitérant la crise majeure que traverse le système de santé publique du Québec, il nous apparaît limpide que le gouvernement doit absolument consolider l'accès aux soins à domicile de qualité et appliquer ses conclusions. C'était « Vivre en CHSLD quand on a moins de 65 ans, la hantise des adultes en situation de handicap », un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 159 « Hiver-printemps 2023 » du magazine Paraquat.